Cet épisode comporte un vocabulaire et du contenu réservé aux adultes et pourrait ne pas convenir à certains auditeurs sensibles.
Benita paniquait. Elle venait d'apprendre que le pape n'était même pas censé être à Rome le jour de son mariage en Italie. Ses amis l'ont ramenée à son appartement et ils ont débouché une bouteille de champagne pour l'aider à se détendre. C'est à ce moment-là que son téléphone a sonné. C'était Paolo.
Je suis retournée dans ma chambre et j'ai fermé la porte et je lui ai crié après. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il était très calme et rassurant. Il m'a dit « Je sais pas, mon amour, je suis désolée. Je viens de l'apprendre moi aussi, j'ai appelé le Vatican, je fais tout ce que je peux pour comprendre. Je te promets que ça va bien se passer, on se marie toujours, tout va bien aller, on va tout arranger. » Il arrêtait pas de dire que tout allait bien, que ça se passerait bien, qu'il allait appeler le Vatican et que si on ne lui répondait pas, ben il irait lui-même au Vatican trouver des réponses.
Mais pour Benita, ce n'était pas suffisant.
Je lui ai dit que je le croyais pas, que ça n'avait plus aucun sens et que ça marcherait pas.
C'était au tour de Paolo de se mettre en colère.
Il n'arrêtait pas de me demander « Pourquoi tu dis ça? Comment tu peux penser que je te mentirais? » Alors, je lui ai dit qu'il fallait qu'il vienne à New York, que je voulais qu'il me le dise en face. Il m'a dit « D'accord, je vais venir à New York. »
Benita a raccroché. Elle est allée dans son salon et elle a remercié ses amis de l'avoir ramenée chez elle. Elle a pris sur elle jusqu'à leur départ, puis elle a craqué et elle a fondu en larmes. Elle a passé les jours suivants dans un brouillard. Elle était submergée par l'anxiété et ne trouvait pas le temps de manger ni de dormir. Mais après le choc et la tristesse, c'était au tour de la colère de l'envahir.
Je passais mes journées à marcher et je réfléchissais à toutes sortes de choses. Plus j'y pensais, plus je me disais que ça marchait pas. C'était forcément un mensonge. Je faisais les 100 pas dans toute la maison en répétant « espèce de trou de cul ». Espèce de trou de cul. You motherfucker.
Tous les vols annulés à la dernière minute, les explications tirées par les cheveux, tout lui semblait différent maintenant. Elle n'arrivait plus à démêler le vrai du faux.
J'étais dévastée, une loque humaine. Jusque-là, je m'étais concentrée sur les plus grandes choses. Mais j'ai réalisé qu'il y avait des choses toutes simples que je pouvais éclaircir très rapidement.
Elle n'avait pas la force de le faire elle-même, alors elle a demandé à Amanda, son amie et ancienne collègue, de passer quelques appels.
Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'en avoir le cœur net pour faire son deuil. Elle m'a demandé d'appeler au château où le mariage devait avoir lieu, l'endroit où on avait réservé des chambres et l'endroit où on devait prendre le petit déjeuner le lendemain matin. Elle voulait que je leur pose des questions sur le mariage, n'importe quelle question. Elle n'avait eu de contact avec aucun des lieux pour le mariage et elle n'avait géré aucun détail, à part sa robe de mariée et l'invitation. Paolo avait dit qu'il voulait s'occuper de toute l'organisation et qu'elle aurait qu'à lui dire « je le veux » sans se soucier de rien. Donc j'ai appelé le château et je leur ai dit que je faisais partie des invités pour le mariage. Je leur ai donné le nom des mariés et on m'a demandé « quel mariage? On n'a aucun mariage ce week-end-là? » Je leur ai demandé s'ils avaient une réservation au nom de Paolo. Ils m'ont répondu que non. Ils n'avaient jamais entendu parler de lui. Ils n'avaient jamais entendu parler de Benita Alexander.
Amanda a fait part de ses découvertes à Benita.
Elle a poussé une sorte de cri, puis elle est redevenue stoïque et elle a dit « c'est ce que je pensais ».
La découverte du mensonge sur l'organisation du mariage allait être aggravée par un rebondissement encore plus troublant. Un autre gros titre dans le New York Times 6 mois après le précédent. L'enquête démontre une faute professionnelle du chirurgien Paolo Macarini. Une enquête menée à l'Institut Karolinska avait révélé qu'il avait falsifié des informations sur certains patients dans des revues médicales. Et Paolo était en route. Il serait à l'appartement de Benita d'ici quelques heures. Elle s'est dépêchée d'appeler quelques amis et d'échafauder un plan.
J'ai mis en place un mot de code avec elle. Je leur ai dit « je sais pas ce qui va se passer, je sais pas ce qu'il va me dire, mais si je vous envoie ce message-là, c'est une urgence. Ça veut dire qu'il faut m'appeler immédiatement. Si je réponds pas, appelez la police. »
Puis elle a posé son téléphone et a attendu.
Je commençais un peu à paniquer. J'avais peur. Je me demandais qui était vraiment cet homme-là.
Il se trouve que 4 médecins qui avaient travaillé avec Paolo au prestigieux Institut Karolinska en Suède se posaient exactement la même question depuis des mois. Et ils étaient sur le point de trouver des réponses troublantes. Pour Wondery, je suis Anne-Sophie Roy et vous écoutez Docteur la mort, l'homme miracle. Épisode 3, Rat de laboratoire. La plupart du temps, quand le docteur Calais Grinemo se rendait au travail dans le bâtiment de briques rouges de l'hôpital universitaire Karolinska, il se sentait bien.
J'étais très fier de travailler à Karolinska. C'était en quelque sorte une consécration, une réussite.
L'Institut Karolinska avait une excellente réputation. Il faisait partie des leaders du développement de la chirurgie cardiaque moderne. Et en 2011, les médecins de l'Institut menés par le docteur Paolo Macarini avaient repoussé les limites de la médecine encore plus loin avec la toute première greffe d'une trachée biosynthétique. Le docteur Grinemo l'avait assisté dans l'opération. Une vraie consécration. Ce qui était moins agréable pour lui, c'était les réunions du matin avec les autres médecins.
Les réunions du matin à Karolinska étaient vraiment très spéciales. Parmi les chirurgiens chevronnés, certains étaient très peu amicaux. Ils essayaient toujours de nous confronter dès le matin et de se moquer de nous.
Heureusement, il avait tout de même un ami là-bas, le docteur Mathias Corbaccio, un Américain au crâne rasé d'1,85 m, dont le sourire lui donnait une mine plus renfrognée qu'autre chose.
J'étais plutôt comme l'âne dans Winnie l'ourson, un vrai pessimiste. Je passais mon temps à dire « c'est pas réaliste, bla 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 ». Le genre de personne qui dit « ça va pas marcher ».
L'attitude de Corbaccio avait un peu inquiété Grinemo pendant sa première réunion du matin.
Pour mon premier jour de travail, il m'a dit « ne dis pas un mot pendant la réunion du matin ».
Je lui ai dit de parler le moins possible aux réunions du matin s'il voulait s'en sortir. Parce que dès qu'on ouvrait la bouche, on se faisait attaquer.
Pour Grinemo, ça semblait faire partie de la culture de la place de casser les gens pour les reconstruire. Certains pensaient peut-être que ça aidait à être plus efficace, mais pour sa part, il pensait que ça poussait les gens à avoir peur de s'exprimer. Paolo Macarini occupait un poste à Karolinska, mais il était rarement là. Au mois de juillet 2012, il a eu une nouvelle patiente. Son nom était Yesim Setir.
C'était une jeune fille d'une grande beauté. Elle avait le sourire aux lèvres, les cheveux longs, un poids normal. Et elle avait vraiment hâte de faire la connaissance de Paolo pour qu'il puisse la soigner.
Yesim était une jeune femme turque d'une vingtaine d'années. C'était un cas tragique. Grinemo a appris plus tard qu'elle avait subi une opération pour régler un problème de transpiration des mains, une intervention interdite en Suède. Les chirurgiens avaient bâclé le travail.
Au cours de l'opération, ils avaient causé des dommages, une blessure au niveau de la trachée. La blessure se situait à un endroit très sensible. C'était très proche de l'endroit où les bronches se séparent.
Les médecins turcs avaient essayé de corriger le tir avec deux opérations successives, mais son état ne s'était pas amélioré.
Au lieu de ça, elle a commencé à avoir des problèmes de sécrétion de mucus. Elle toussait beaucoup et elle était forcée de rester chez elle. Elle passait son temps chez elle alors qu'elle voulait devenir enseignante.
Le médecin d'Yesim avait dit à son père qu'il n'y avait aucun traitement possible en Turquie. Mais il connaissait un spécialiste renommé qui aurait peut-être une solution. Il lui avait dit que Paolo Macarini était un expert des problèmes de trachée, qu'il pouvait prendre la trachée d'une personne décédée et la greffer à une personne vivante pour la soigner.
Donc, elle était très heureuse de pouvoir aller à Karolinska se faire soigner par Paolo. Elle plaçait de grands espoirs dans l'opération.
Lorsque Grinemo l'a vue pour la première fois, elle était arrivée de Turquie la veille au soir. Elle était là avec son père, et même si ce n'était pas la patiente de Grinemo, il s'était arrêté pour la saluer. Paolo a déclaré qu'il devait d'abord constater l'étendue des dégâts que les opérations précédentes avaient causés sur sa trachée. Alors il a décidé de procéder à une thoracotomie exploratoire, en d'autres termes, de lui ouvrir la poitrine par les côtes.
C'était très étrange, en fait, qu'il veuille se faire un avis lui-même. C'est très rare que l'on soit obligé d'ouvrir un patient pour aller observer directement la blessure, parce qu'il y a toujours un risque. La trachée est une zone très fragile. En réalité, il n'y avait absolument aucune raison de pratiquer une chirurgie ouverte dans ce cas précis. il y avait déjà des images plutôt claires. D'ailleurs, il aurait même pu obtenir d'autres images à Karolinska en lui faisant passer des scans 3D pour visualiser les lésions encore plus en détail. Personne ne faisait ça. Alors pourquoi est-ce que lui aurait le droit? C'était très étrange.
Grinemo devait pratiquer une opération ce jour-là. Ce n'est donc que plus tard qu'il a appris que l'intervention avait été une vraie catastrophe.
Pendant l'opération, Paolo s'est approché trop près de la blessure à la trachée. Alors qu'il maintenait une tension pour mieux visualiser la blessure, toute la trachée a comme éclaté. Donc, il y a eu une importante fuite d'air. C'est devenu très difficile d'acheminer l'air jusqu'au poumon de la patiente. Elle était quasiment en train d'étouffer.
Il y avait un autre problème. Lorsque Paolo a pratiqué l'incision, le poumon droit s'est mis à saigner de façon incontrôlable. À partir de là, les choses sont allées en empirant. Le sang a commencé à s'accumuler dans ses poumons et il était en train de se noyer.
Tout à coup, c'était la panique dans la salle d'opération. Alors, pour reprendre le contrôle cardio-respiratoire, Paolo a pratiqué une ablation complète du poumon droit de la patiente et il a intubé la bronche qu'il restait pour la maintenir ventilée. C'est comme ça qu'on lui a retiré le poumon droit et on l'a mis sous ECMO, la pauvre.
ECMO, c'est l'oxygénation par membrane extracorporelle et ça consiste à pomper le sang hors du corps pour le réoxygéner avant de le réinjecter au patient. Yessim était donc dans une situation critique, lourdement anesthésié et placé sous oxygénation extracorporelle. Le docteur Macarini voulait vite corriger la situation et il a affirmé que le meilleur moyen d'y arriver était de lui greffer une de ses nouvelles trachées biosynthétiques. Deux semaines plus tard, le 7 août 2012, Yessim Setir est devenu le cinquième patient à recevoir la trachée biosynthétique de Paolo.
L'opération s'est plutôt bien déroulée d'un point de vue chirurgical et on a pu lui retirer le ECMO pendant la chirurgie.
Mais ensuite, l'état de santé d'Yessim a pris un autre tournant. Grinemo et Corbaccio travaillaient dans l'unité de soins intensifs le soir qui a suivi l'opération d'Yessim.
Mathias et moi...
Mathias, c'est le docteur Corbaccio.
Nous étions dans le couloir parce que je voulais voir le patient que je venais d'opérer. Je voulais voir s'il se remettait bien.
Tout à coup, l'alarme s'est déclenchée dans la chambre de Yessim.
On nous a crié qu'il fallait qu'on vienne voir dans la chambre où se trouvait Yessim.
Ils ont accouru. Yessim semblait complètement paniqué.
Elle avait les yeux grands ouverts et elle agitait les bras. On avait l'impression qu'elle essayait de s'enlever quelque chose de la gorge, quelque chose qui l'empêchait de respirer. C'était clair, tous les signes montraient qu'elle était en train de suffoquer. Elle était complètement affolée. Elle avait peur de mourir.
Son taux d'oxygène était en chute libre.
Ce qui s'est passé, c'est qu'elle était en train de désaturer. Elle n'avait plus assez d'oxygène, alors son cœur s'est arrêté. À ce stade-là, on peut dire qu'elle était morte.
Il fallait débuter le massage cardiaque, mais ils étaient réticents parce qu'elle avait toujours une sonde dans l'œsophage.
Bien sûr, il y avait un risque que cette sonde lui cause des lésions à l'œsophage ainsi qu'à la trachée.
Cela risquait de la blesser, mais ils n'avaient pas d'autre solution.
Notre seule préoccupation à cet instant-là, c'était qu'elle ne nous meure pas entre les mains. Alors on a fait tout ce qu'on pouvait pour la sauver.
Les anesthésistes ont commencé la compression thoracique. Ça ne fonctionnait pas et chaque seconde comptait. Alors les chirurgiens ont pris la décision de la placer sous circulation extracorporelle au plus vite.
On ne parlait presque pas. On ressentait tous la même chose. Il fallait qu'on se concentre sur ce qu'il fallait faire pour la sauver. Prendre un scalpel, couper aux artères et mettre directement les canules avec des fils guides. Puis stabiliser la circulation et la ventilation avec la machine à oxygénation extracorporelle.
Quand ils ont enfin eu un instant pour souffler, ils se sont regardés.
Tout ça était tellement absurde, à la fois pour Mathias et pour moi. On se regardait tous les deux en se demandant comment on en était arrivé là. Qu'est-ce qui s'était passé?
Moins d'un an plus tard, quatre médecins se sont rassemblés dans un bureau de la même unité de soins intensifs. Il y avait Grinemo et Corbaccio, ainsi que le docteur Oscar Simonson. Simonson avait travaillé sur une étude pour Paolo. Il avait testé les trachées biosynthétiques sur des rats.
Et c'est tout. Il a une très bonne connaissance du domaine et il ne tolère pas qu'on lui dise non.
Les recherches que j'ai conduites impliquaient entre autres d'utiliser des petits animaux de laboratoire. C'est pour ça qu'on m'a présenté à Paolo. Il avait l'intention d'utiliser des animaux de laboratoire ici en Suède. En fait, c'était des rats.
This was rats, actually.
Et puis, il y avait le docteur Thomas Fuchs.
Thomas est autrichien, et les Autrichiens et les Allemands ont un grand sens de la précision. Ils accordent une grande importance aux détails. Donc, il est extrêmement méticuleux dans sa façon de travailler et prendre soin de ses patients. Il s'occupait toujours des patients les plus mal en point dans l'unité des soins intensifs.
Un homme au front allongé et à l'air sérieux, le docteur Fuchs avait pris la décision de former le groupe. C'était le principal médecin responsable des soins de Yassim Setir, dont l'état s'aggravait.
Ça n'allait pas en s'améliorant. Elle avait perdu beaucoup de poids, elle n'avait plus aucun muscle. Elle n'était même plus capable de marcher, elle était en fauteuil roulant. Elle était inquiète et frustrée à propos de la situation, évidemment.
Elle avait beaucoup changé depuis le jour où le docteur Grinemo l'avait vue pour la première fois. Elle avait besoin d'un tube pour s'alimenter parce qu'on lui avait enlevé son œsophage.
On a vu que la situation allait dans une très mauvaise direction.
Toutes les 4 heures, il fallait drainer manuellement le mucus dans sa gorge pour ne pas qu'elle s'étouffe.
C'était un vrai cauchemar pour elle. Toutes les semaines, elle devait subir des opérations. La situation était catastrophique.
Selon le docteur Fuchs, la communication avec Paolo était complètement rompue. À peine quelques semaines plus tard, le directeur de leur service a organisé une réunion pour parler de l'état de Yassim. Le docteur Fuchs y a assisté, accompagné de quelques autres spécialistes. Paolo était censé s'exprimer devant un groupe de médecins et spécialistes pour expliquer ce qui s'était passé et trouver une manière de procéder. Mais si l'objectif était que Paolo prenne les devants pour trouver une solution pour Yassim, les choses ont complètement dérapé. Paolo a commencé à se plaindre de la qualité des soins à l'hôpital. Il a insinué que les vraies lésions causées à Yassim avaient été faites après l'opération qu'il avait pratiquée.
Il disait que toutes les complications actuelles étaient dues à nos mauvais traitements en tant que clinicien et qu'il n'avait rien à voir là-dedans. Il n'avait pas l'air d'avoir la moindre solution à apporter. Tout ce qu'il faisait, c'était nous rejeter la faute dessus pour mauvais traitement.
Il n'était pas impossible que Paolo ait raison, que la réanimation que les docteurs Grinemo et Corbaccio avaient effectuée ait endommagé la trachée. Mais ce n'était qu'une des possibilités, et Paolo ne prenait pas en compte toutes les autres. Et puis, il y avait autre chose. La réunion avec Paolo s'était déroulée à peine quelques mètres de l'endroit où Yassim était aux soins intensifs. Elle avait entendu dire que son médecin serait là.
Elle avait mis sa plus belle robe. Ça demande beaucoup d'efforts compte tenu que ses muscles étaient affaiblis. Alors le fait de s'habiller, ce n'était pas évident pour elle. Elle était épuisée, complètement clouée au lit. Et elle était très faible. Mais elle a fait l'effort de faire sa toilette, de mettre une belle robe et de se maquiller. Tout ça pour être belle et attirante pour Paolo. Elle a vraiment eu beaucoup de difficultés pour arriver à faire une bonne impression auprès de Paolo, pour qu'il prenne soin d'elle et qu'il la sauve. Mais il l'a simplement ignorée. Il n'a jamais mis les pieds dans sa chambre, rien. Il savait qu'elle s'était habillée. Tout le monde le lui a dit, mais il a fait comme si de rien n'était.
Grinemo était stupéfait.
On était tous extrêmement en colère et déçus. On a tous ressenti ce que Yassim a dû ressentir, d'être ignoré comme ça par Paolo. Parce que pour elle, ça voulait dire plusieurs choses. D'abord, elle s'est rendue compte que Paolo se fichait d'elle. Ensuite, qu'il n'y avait plus aucun espoir pour elle. Paolo ne voulait pas aller dans sa chambre, parce qu'il ne pouvait rien faire de plus pour elle.
Les 4 médecins ont décidé que si Paolo ne pouvait pas ou ne voulait pas aider Yassim, ce seraient eux qui s'en chargeraient. Ils ont commencé à se renseigner sur les traitements possibles ou sur l'éventualité d'une nouvelle greffe pour Yassim. Il y avait trop de questions en suspens au sujet des opérations qu'elle avait subies. Le directeur du service semblait comprendre la gravité des complications auxquelles Yesim faisait face. Il a envoyé à Paolo un courriel très dur.
Il ne sera plus possible de poursuivre avec cette méthode au département de chirurgie thoracique tant que ces problèmes n'auront pas été examinés et gérés correctement sur des sujets non humains.
Par hasard, Grinimo a eu une discussion avec Paolo juste après qu'il ait appris qu'il ne pourrait plus pratiquer de greffe. Ils se sont retrouvés à la bibliothèque de la clinique de chirurgie thoracique.
J'étais assis là avec Philippe Jungblut, l'étudiant postdoctoral de Paolo, et Paolo lui-même. Il n'y avait personne d'autre dans la pièce. J'ai été très gentil avec lui.
Grinimo lui a demandé des nouvelles d'une bourse qu'ils avaient demandée ensemble, mais Paolo ne voulait pas lui en parler.
Il faisait des commentaires sur les recherches de mon équipe. Il essayait clairement de nous rabaisser, mon équipe et moi. Il disait qu'on était mauvais, qu'on n'avait jamais rien publié.
Il voyait bien que Paolo essayait de ruiner leur relation. Et même si le docteur Grinimo voulait sa part de la bourse, une question lui brûlait les lèvres.
Je lui ai dit que nous examinions les greffes de trachées biosynthétiques, en particulier celle de Yesim Setir, et qu'on avait constaté les complications. Je lui ai demandé s'il avait constaté les mêmes complications sur les patients qu'il avait opérés en Russie.
Paolo était hors de lui.
À la fin, on était presque en train de se crier après. Et puis, il a quitté la pièce en me disant que ça ne me regardait en aucun cas et qu'il allait faire de ma vie un enfer et que ça marquait la fin de ma carrière.
Grinimo faisait des recherches dans son labo quand il a reçu un appel du Dr Fuchs.
Il m'a demandé si je savais ce qui était arrivé au premier patient. Je lui ai dit que non.
Le Dr Fuchs lui a dit que le premier patient à qui Paolo avait fait une greffe d'une trachée biosynthétique qui avait été couronnée de succès et qui ouvrait la voie à toutes les autres opérations, bien ce premier patient était en train de mourir. Les quatre médecins venaient de finir leur quart de travail et se sont retrouvés dans le bureau de Thomas Fuchs. Le ton était sérieux. Le premier patient qui avait reçu une trachée biosynthétique de Paolo était mort. C'était l'opération d'André Mariam Beyen, celle où le docteur Grinimo avait eu l'honneur de suturer le patient pour conclure l'intervention. Le docteur Fuchs a alors appris aux autres médecins que l'on voulait à l'origine incinérer Beyen sans pratiquer d'autopsie.
Thomas était furieux. Alors il a contacté tous les responsables du département et tout le monde a refusé.
Il a fini par contacter quelqu'un qu'il connaissait dans un autre service.
En gros, il a agi dans d'autres services dans lesquels il travaillait et ils ont pratiqué l'autopsie.
Quand Fuchs a assisté à l'autopsie en février 2014, il n'était pas préparé pour ce qu'il allait voir. Le docteur Grinimo se souvient de la description qu'il en a faite.
La greffe s'était complètement détachée. Elle ne tenait plus à rien. On aurait pu prendre une pince et la sortir. Elle n'était plus fixée.
En examinant de plus près, il a vu que la trachée elle-même avait commencé à pourrir. Elle était entourée de tissus en décomposition.
Ça n'avait jamais guéri. Alors la trachée avait été détériorée par la réaction inflammatoire. C'était tellement fragile, on pouvait juste la prendre comme ça.
C'était loin d'être la technologie de pointe dont le docteur Macchiarini se vantait. Les enjeux étaient désastreux.
Beyen a eu exactement les mêmes complications que Yesim Setir.
C'était au tour du docteur Simonson de parler. Le problème ne se limitait pas aux patients humains. On observait exactement la même chose chez les rats.
More or less like a scarring formation.
C'est un peu comme si une cicatrice se formait, et ça fait que c'est de plus en plus difficile de respirer parce que la trachée est de plus en plus étroite.
Ce n'était pas juste une question de savoir si la trachée finirait par lâcher ou non.
Ce n'est qu'une question de temps, je dirais.
Les pièces du casse-tête s'assemblaient. Les rats morts, André Mariam Beyen, Yesim Setir.
Tout devenait soudainement clair comme de l'eau de roche. Et on savait que Paolo avait caché la vérité à tout le monde. Alors on s'est rassemblés et on a discuté de la marche à suivre pour gérer la situation. On a décidé qu'il fallait avant tout sauver Yesim et on devait faire tout notre possible pour la sauver.
Durant les mois qui ont suivi, ils ont épluché les dossiers de patients à la recherche d'autres greffes et ils ont trouvé de plus en plus de preuves que toutes les autres greffes de trachée biosynthétique avaient mal tourné. Le docteur Grinemo a communiqué les informations qu'ils avaient rassemblées au vice-chancelier. Les quatre médecins ont continué à creuser encore plus. Au cours de l'été 2014, ils ont continué à se retrouver régulièrement pour passer en revue les détails. C'est pendant l'une de ces réunions, dans le bureau de Corbaccio, que le docteur Simonson a soulevé une question que jusqu'alors, personne n'avait encore pensé poser.
Oscar says...
Au bout d'un moment, Oscar a demandé « Je me demande s'il a reçu son approbation déontologique pour faire ses opérations. » Grinemo et moi, on lui a dit « Mais là, c'est sûr qu'il l'a eu. Personne n'oserait faire ça. » Et Oscar a dit « Je parie qu'il l'a pas eu. » Je suis allé vérifier s'il avait eu son autorisation déontologique pour pratiquer ses interventions.
Il faut avoir l'approbation d'un comité d'éthique qui stipule qu'on a le droit de mener des recherches expérimentales sur sujets humains.
Et bien entendu, il ne l'avait pas. J'en croyais pas mes yeux. On avait envie d'éclater de rire. Et en même temps, on était complètement scandalisés de voir à quel point cette histoire-là était démente. Donc en gros, il a fait des expériences sur sujets humains sans approbation déontologique. Et ça, c'est la chose la plus grave qu'on puisse faire. En matière de médecine, en sciences médicales, on n'a pas le droit de faire ça. C'est un crime très grave. À ce moment-là, tout ce que je me disais, c'était « c'est pas possible ». Il a quand même pas fait ça.
Mais ça ne s'est pas arrêté là.
Et à chaque pierre qu'on soulevait, on trouvait encore plus de problèmes, ça devenait de plus en plus horrible.
En août, ils étaient prêts à soumettre leur rapport final. Il faisait 400 pages. Alors qu'ils se préparaient à l'envoyer, Corbaccio a regardé les autres médecins.
On savait très bien qu'on signait notre propre arrêt de mort en faisant ça. Parce qu'on savait qu'il y aurait des représailles et qu'on serait sans doute envoyé.
Mais Corbaccio savait qu'il devait le faire quoi qu'il arrive pour le bien de leurs patients.
Si je devais choisir entre la trachée en plastique de Paolo Macchiarini et une balle dans la nuque, je me ferais tirer dessus sans la moindre hésitation.
Ils avaient mis le rapport dans une boîte, mais la seule boîte qu'ils avaient trouvée était trop grande et le rapport bougeait à l'intérieur.
Je crois que c'est Grinemo qui a eu l'idée. C'était une boîte qui était légèrement trop grande. Et Grinemo a dit « On a juste à mettre des couches dedans pour pas que ça bouge. » Et puis comme ça, le vice-chancelier va pouvoir se mettre une couche parce qu'il va se chier dessus en lisant ça. Bon, c'était plus drôle en suédois. Mais en tout cas, on a envoyé le rapport.
Oui, ça y est, je me rappelle, je me souviens de ça. On se prenait chacun notre tour en photo avec la boîte qui contenait toutes les plaintes. Elle était assez grosse, à vrai dire. Et j'ai dit, « Hey, il y a encore pas mal de place là-dedans. On peut mettre les couches pour le vice-chancelier. » Oui, je me souviens, c'est comme si c'était hier.
C'était de l'humour noir. Mais Corbaccio était tellement sûr qu'il y aurait des conséquences pour eux qu'il leur a dit à tous de devenir membres du syndicat avant d'envoyer le rapport. Et puis, plus rien. Le silence complet.
J'espérais que ça susciterait des réactions et que quelqu'un ferait quelque chose, mais il n'y a eu aucune réaction. Absolument aucune réaction. Alors on a appelé Ernst Dayen, le directeur de l'université, et on a essayé d'organiser une réunion avec lui, mais il a refusé.
En fait, c'est seulement quand le rapport est tombé entre les mains du New York Times que les choses ont changé.
Et puis, le lendemain de la publication de l'article dans le New York Times, Anders a embauché un examinateur externe pour examiner le rapport. C'était la première réaction de Karolinska, et il a fallu attendre que le New York Times publie un article. Avant ça, personne n'a bougé le petit doigt.
C'était une petite victoire, mais une victoire quand même. Mais ça ne durait pas. Vers la mi-octobre 2015, Corbaccio a regardé dans sa boîte aux lettres.
J'avais reçu une lettre qui disait que je devais aller au commissariat pour être entendu par la police suédoise.
C'était à propos du cas Macchiarini. Mais on ne lui demandait pas son aide pour une enquête. C'était lui l'objet de l'enquête. Il a senti un frisson le parcourir.
Il m'a fallu 20 ans d'études à l'université, un doctorat et beaucoup de pratiques pour devenir chirurgien. Et tout ça pouvait partir en fumée. Je préférais passer 2 ans en prison plutôt que de perdre mon permis pour pratiquer la médecine.
Qu'est-ce que je ferais, moi, sinon? Jouer des congas? Play the congas.
Pour l'heure, Corbaccio et les autres médecins semblent être au point mort. Leur rapport n'avait pas eu l'effet escompté. Pire encore, l'enquête portait sur lui. Mais ce qu'il ne savait pas et ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'était qu'outre-Atlantique, une enquête d'un tout autre genre était sur le point de commencer.
Je lui ai envoyé « Je t'aime » par message et il a dit que tout allait s'arranger. Je lui ai dit « D'accord ». Je faisais semblant de rien comprendre, mais c'était faux. J'avais méticuleusement tout calculé. En fait, je menais mon enquête et c'était à mon tour de passer à l'action.
À suivre dans le prochain épisode du Docteur Lamort, l'homme miracle. The Wondery, vous avez écouté l'épisode 3 de 6 de Docteur Lamort, l'homme miracle. L'histoire d'un médecin qui a promis une révolution de la médecine régénérative qui a tourné au cauchemar. Si vous voulez nous aider à faire connaître la série, donnez-nous une note de 5 étoiles et n'oubliez pas d'en parler à vos amis. Écoutez Docteur Lamort sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme de balado. Également disponible en primeur et sans publicité sur Amazon Music ou en vous abonnant à Wondery Plus sur Apple Podcast ou sur l'application Wondery. Dans les commentaires de l'épisode, vous trouverez les liens et les offres de nos commanditaires. Merci de les encourager. Docteur Lamort a été écrit, publié et animé par Laura Beale. Cette version est animée par Anne-Sophie Roy. Produit par Nika Singh, qui a également couvert cette histoire. Vérification des faits par Jacqueline Coletti. Assistante de production, Fiona Pestana. Directrice de production, Lata Pandia. Supervision musicale, Scott Velasquez. Design sonore, Salt. Producteur exécutif, George Lavender, Marshall Louis et Jen Sargent pour Wondery. La version québécoise est réalisée et mixée par Anne-Sophie Carpentier, Philippe Séguin et Bastien Gagnon La France, avec la participation de Joanie Henry, Maxime Lacasse et Dominique Plamondon de Cube Radio.